En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour cette première table ronde de l'après-midi. Pour cette quatrième édition, les Rencontres Capitales accompagnent l'Académie des sciences dans sa réflexion consacrée à 350 ans de progrès. Alors, comme ce matin, on va continuer à s'interroger sur le progrès, notamment le progrès économique et technologique. Est-il antinomique avec le progrès social? Quelle est la bonne équation? Alors, je vais présenter tous les participants à cette table ronde. D'abord, son président, Bernard Meunier. Bonjour, vous êtes chimiste, spécialiste de la chimie de l'oxydation pour les experts. Et vous êtes président de l'Académie des sciences. Vous allez donc présider ce débat. Daniel Cohen, vous êtes économiste. Alors, c'est difficile de choisir dans votre CV, mais on va dire vous êtes membre fondateur et titulaire d'une chaire associée à la Paris School of Economics, directeur du département d'économie à l'ENS. Et puis, le grand public vous connaît aussi par vos essais, notamment Chronique d'un crack annoncé. Ça, c'était en 2003. Donc c'était assez précurseur. Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux, c'était en 2012. Et puis, plus récemment, Le monde est clos et le désir infini, paru en septembre 2015 chez Albin Michel. Gérald Carsanti, vous êtes président de Hewlett-Packard Enterprise France, également professeur HEC et Sciences Po, et auteur de plusieurs livres sur le management. Également avec nous, Alain Roumillac, président de Manpower Group France. Alors, je vous dirai à chaque fois qui fait quoi, parce qu'effectivement, on est assez nombreux. Vous êtes vice-président de la fondation Agir contre l'exclusion, président du conseil d'orientation de Face à l'emploi. C'est une plateforme digitale pour l'égalité des chances. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Marie-Vorgane Lebarzik, vous êtes cofondatrice et présidente de l'incubateur de start-up Numa, là aussi vous nous expliquerez ce que c'est. Frédéric Mazella, fondateur et président du site de covoiturage Blablacar, et également à l'origine du mouvement Reviens Léon, on innove aussi à la maison, hein, qui est destiné à faire revenir les entrepreneurs français expatriés. Alors, tout d'abord, donc, la parole au président de cette séance. Alors, quel rapport on peut faire entre la recherche, dans ce cadre aussi prestigieux, ça paraît parfois un peu éloigné de l'entreprise. L'innovation, c'est totalement inséparable du progrès économique. Et est-ce que c'est inséparable du progrès social?
Progrès social, c'est toujours un peu plus délicat à mener. Par contre, l'innovation, la recherche fondamentale, c'est difficile de les dissocier. On a toujours tendance, et on aime bien opposer recherche fondamentale du professeur Nimbus totalement isolé, coupé de la société, avec l'innovation qui sera au service des défis sociétaux. On a beaucoup joué sur cette dichotomie dans les dernières années. Je pense qu'il faut revenir au raisonnable. Le raisonnable, c'est qu'il y a la recherche fondamentale de haut niveau. Elle doit être menée par des chercheurs de haut niveau. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, à partir de là, on peut avoir des innovations. Donc on n'a pas d'innovation sans une recherche fondamentale solide. J'ai plaisante souvent en disant, imaginez d'avoir des innovations sans recherche fondamentale, c'est un peu comme chercher à bâtir sur des sables mouvants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mot pasteurisation est connu maintenant. Tout le monde sait ce que c'est que la pasteurisation. Mais enfin, quand, non pas dans cette salle, mais dans la grande salle des séances, Pasteur discutait sur les microbes, génération spontanée, miasme et tout ça, il était seul et isolé. Et on ne savait pas encore que la pasteurisation allait tout de même aider beaucoup de gens à vivre bien mieux, éviter d'être intoxiqués et autres. Donc il n'y a pas de frontière réelle entre recherche fondamentale et innovation. Il y a souvent une frontière entre mauvaise recherche fondamentale et mauvaise innovation, ça oui.
Alors, le thème de notre débat essaye d'englober progrès technologique, progrès économique et social. Daniel Cohen, pour déjà remettre un peu de perspective, est-ce que dans notre histoire, les progrès économiques et technologiques se sont accompagnés de progrès sociaux? Ou est-ce que c'est pas aussi simple?
Bon, les deux, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'on voit des grandes périodes de l'histoire, je pense notamment à la première moitié du 19e siècle, qui est associée à la machine à vapeur, qui est grand moment de mise en mouvement de l'histoire humaine, c'est le moment où on s'arrache aux vieilles sociétés agraires pour rentrer à proprement parler dans la société industrielle. Et le résultat est une catastrophe sociale. On a le célèbre rapport Villermé qui est publié, qui explique que la paupérisation de la classe ouvrière la menace, tout simplement. Et donc, c'est une période de grande pauvreté, en tout cas au regard de ce que sont nos critères aujourd'hui, même si parfois ça peut se traduire par une amélioration vis-à-vis de situations qui étaient encore pires dans le monde rural français. Mais on peut pas associer ça, en lisant Dickens et nos autres auteurs, on peut pas associer ça à un grand moment d'augmentation du bien-être social. Et à l'inverse, un siècle plus tard, avec ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle, celle de l'électricité, là, pour le coup, on voit bien une mise en cohérence, on voit les salaires augmenter, on voit la société de consommation transformer les conditions d'existence des personnes. Et là, pour le coup, oui, il y a une symbiose. Et la question, c'est nous, où est-ce qu'on est? À quoi est-ce qu'on ressemble le plus? Est-ce qu'on ressemble plutôt à une continuation du processus engagé au XXe siècle, qui a plutôt fait rimer ces deux processus de croissance économique, de progrès technique et de bien-être et de progrès social, même si bien sûr il y a beaucoup de choses à dire sur le monde de la société industrielle du XXe siècle, ou est-ce que ça ressemble plutôt à une grande déstructuration qui ressemblerait davantage à celle du XIXe siècle? On voit bien que quand on dit ça, on est un peu tenté par le parallélisme, toute chose égale par ailleurs avec le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on voit ce que la société post-industrielle, numérique, détruit. Et on a l'impression que ce qu'elle est en train de créer, mais on aura cette discussion qu'on a déjà commencé, est pour l'instant en état de potentialité, beaucoup plus qu'à proprement parler, du point de vue du progrès social. Naturellement, il y a beaucoup de choses que la société numérique nous permet de faire, communiquer aux quatre coins de la planète, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est des valeurs de liberté qui s'expriment aussi. Mais du point de vue du progrès social, c'est-à-dire la capacité à faire tenir une société autour de ce projet industriel nouveau qu'est la société numérique, on voit beaucoup de trous, on voit beaucoup de précarité. Et au fond, on voit poindre aussi une exaspération des peuples. Et il suffit de suivre les élections qui se sont produites au cours de cette année, le Brexit, l'élection de Trump, pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société numérique aujourd'hui. Il faut évidemment y réfléchir en profondeur et aller au-delà de la mise en équivalence progrès technique égale progrès économique égale progrès social. Je crois que personne ici ne peut penser que c'est aussi simple.
Frédéric Mazella, je rappelle, vous êtes président de Blablacar. Vous avez donné quelques cheveux blancs à un leader historique des transports, la SNCF, puisque vous proposez de manière très organisée sur une plateforme de faire partager un voyage en covoiturage entre passagers. Est-ce que vous, en tant que grand patron chez Mimpion, dit start-up aujourd'hui, enfin start-up, c'est un peu jeune, là, vous êtes bien installé.
Donc, start-up, si vous me demandez si on est toujours une start-up, c'est comme si vous me demandiez si je suis toujours jeune. J'ai vous répondu.
Vous l'êtes.
Bien sûr.
Alors, est-ce que, en tant que créateur de start-up, vous vous posez la question du progrès social que vous pouvez apporter?
Alors, déjà, le service lui-même est à la croisée de plusieurs progrès. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on entend par progrès social, mais en tout cas, le fait de faire du covoiturage permet non seulement aux gens, évidemment, d'économiser de l'argent, puisque ça permet de diviser les frais, mais ça permet aussi d'aller dans le sens de moins de consommation pour nos déplacements, et notamment moins de pollution, parce que, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. C'est à la base, c'est de l'optimisation. Et puis ensuite, il y a l'aspect social, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà fait un covoiturage, vous savez que dès qu'on fait un covoiturage, on se rend compte à quel point on a rencontré des gens un petit peu par hasard, mais c'est des gens, on se rend compte qu'on a un amour pour la nation qui est très très fort, parce qu'on rencontre des gens au hasard qui sont super et on ressort beaucoup plus optimiste sur le futur. Donc en fait, c'est un lien social aussi. Donc en ça, c'est du progrès social, c'est-à-dire qu'on permet, grâce au fait qu'il y a des millions et des millions de voitures vides, d'optimiser cela. Alors après, si on regarde ça de très très loin, puisque vous parliez tout à l'heure des acteurs historiques du transport, si on essaie de comparer, alors vous savez qu'une voiture, ça coûte 5 ou 6 000 euros par an à l'entretien. En France, on a 38 millions de voitures, donc ça coûte 200 milliards. Quand on coûte 5 ou 6 000 euros, ça inclut évidemment les frais de dépréciation du véhicule, qu'on a tendance à oublier, mais enfin, quand vous achetez une voiture 15 000 euros, puis vous la revendez 5 000, vous avez perdu plusieurs milliers d'euros par an. Les frais d'essence, de péage, de parking, d'assurance, de réparation, enfin, j'en passe parce qu'après ça fait mal. Mais ça fait 200 milliards par an dans un pays comme la France, c'est-à-dire 10% du PIB. Donc chaque année, on passe 10% du PIB à entretenir tout notre parc automobile. Vous regardez après l'usage, les voitures passent 96% de leur temps arrêtées, garées, donc elles ne bougent pas. 0,5% de leur temps dans les bouchons, 0,8% de leur temps à chercher une place de parking pour se garer. Et il reste 2,7% du temps où on les utilise. Et quand on les utilise pour aller d'un point A à un point B, c'est pourquoi on les a construites. Et quand on fait ça, eh bien, 3 fois sur 4, il y a un conducteur à bord. C'est-à-dire qu'elles sont vides. Donc il y a 3 ou 4 places libres. Donc on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. C'est ça l'utilisation rationnelle des voitures qu'on fait aujourd'hui. Et donc si on compare par rapport aux autres moyens de transport, on peut prendre le train, le bus, l'avion, tous ces moyens de transport-là sont utilisés 50 à 80% du temps. C'est-à-dire qu'ils sont sur les routes ou en l'air 50 à 80% du temps. Et en plus, quand on fait voler les avions, en général, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas que le pilote à bord, on les remplit. Et donc, en fait, on se rend compte que tous les autres moyens de transport ont optimisé leur usage, sauf la voiture. Pourquoi ? Parce que la nature de fonctionnement et la nature économique de ce moyen de transport est complètement différente, puisque pour les bus, les trains et les avions, vous avez des acteurs économiques qui possèdent la flotte ou qui la louent, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est le directeur financier qui regarde et qui dit « Attends, c'est pas assez optimisé, on va essayer quand même de faire en sorte que nos moyens de production soient un petit peu mieux utilisés. » Et donc, en fait, il y a une rationalisation de l'usage de tous ces véhicules, alors que pour les voitures, c'est pas fait, puisque pour les voitures, c'est la possession individuelle. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est une solution digitale, accessible à tout le monde directement depuis le téléphone mobile, qui permet d'optimiser cet énorme gâchis de nos voitures qui prennent beaucoup de ressources, sans compter qu'en plus les voitures prennent 9 à 18% de la surface urbaine.
Mm-hmm. Donc le progrès social que vous apportez, vous le jugez à l'aune d'un progrès environnemental et puis du lien social que vous pouvez apporter?
Oui, disons que la solution technologique étant là, enfin, je suis persuadé que si Internet était apparu en 1909, comme la Ford T est apparue en 1908, je pense qu'on ferait du covoiturage depuis 1909. C'est obligatoire, parce que en fait, ça a toujours coûté très très cher une voiture de l'utiliser tout seul. Mais on l'a fait, ça nous a coûté beaucoup, et puis bon là, on a aujourd'hui un outil technologique qui nous permet de rationaliser ses coûts, et donc on le fait, et qui donc nous rapproche, puisque évidemment dans un covoiturage, vous allez avoir 2, 3, 4 personnes qui voyagent ensemble, ce qui est beaucoup plus convivial que de voyager tout seul.
Marie Vorgan-Lebarzik, je disais, vous organisez, vous orchestrez Nouma, qui est un incubateur de start-up, et ce depuis des années. Frédéric Mazella est passé par la cantine, ça s'appelait, enfin, il est passé voir d'autres entrepreneurs, etc. Est-ce que chez ces nouveaux acteurs de la nouvelle économie, hein, comme on le dit, vous sentez cette idée, à part de faire du business, de aussi apporter un progrès, d'apporter une nouvelle pierre à la société?
Oui, on le sent. Alors, elle n'est pas forcément extrêmement consciente dès le départ. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Frédéric, effectivement, on voit bien qu'on est passé d'une économie extrêmement centralisée et programmée à un enjeu où, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intervenants économiques qui sont ces jeunes entrepreneurs. Et il y a un enjeu aujourd'hui à ce qu'ils se saisissent de cette responsabilité sociale et à ce qu'ils en aient conscience. Avant, on pouvait considérer que c'est le patron de cette grande entreprise de transport, par exemple, qui devait prendre acte de sa fonction sociale et distribuer dans son entreprise cette responsabilité sociale. Aujourd'hui, il y a un enjeu à ce que ces jeunes entrepreneurs, quand ils créent de la valeur, se posent la question de savoir s'ils créent une valeur uniquement financière ou alors s'ils créent aussi une valeur de long terme qui incarnerait et proposerait un progrès et un bien-être. Et c'est pas immédiat, mais malgré tout, il y a cette recherche. C'est-à-dire que quand les entrepreneurs aujourd'hui décident d'entreprendre, c'est pour changer le monde à leur mesure et plus à leur image, et pas forcément avec la conscience de l'impact négatif qu'aura le produit qu'ils vont proposer et qui va être déployé. Mais je pense que, et c'est pour ça que nous, c'est la mission qu'on se donne, de considérer que en les amenant au développement de leur entreprise, il ne faut pas qu'ils le fassent au détriment de cette conscience de l'impact social. Et il faut qu'ils le fassent, il faut qu'émergent ces nouveaux leaders qui soient à la fois singuliers, mais aussi responsables de l'avenir qui est en train de se construire.
Alain Roumillac, vous êtes président de Manpower Group France, donc vous accompagnez les entreprises pour faire évoluer aussi leurs ressources humaines, parce que ça va être un volet dont on parlera après, très important de ce progrès technologique. Quels seront d'après vous les progrès sociaux générés par cette révolution numérique, s'il y en a?
Les progrès sociaux, je pense que ça tire d'un côté donc toute une population vers le haut, et en particulier tous ceux qui sont capables de s'insérer dans ce monde-là et qui sont capables d'être des acteurs pour le développement de cette nouvelle économie et de ces nouveaux moyens. Et puis, à contrario, ça crée aujourd'hui, j'ai besoin de plus de difficultés pour un certain nombre d'acteurs de s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc nous, c'est ce que l'on voit au travers de tout ce qui se passe, et peut-être en décalage un peu par rapport à votre question, mais je crois qu'aujourd'hui se pose un problème majeur sur l'adéquation des compétences et des besoins par rapport à ce que l'on anticipe pour le futur. Et qu'on a un risque, et peut-être pour revenir sur ce qui a été dit un peu en introduction, c'est que finalement on vit avec une société qui soit à deux niveaux. Et lorsque on revient sur tout ce qui tourne autour de l'emploi, c'est-à-dire d'un côté ce qu'on peut considérer comme les gagnants de ce qu'est ce nouveau monde, des gens très qualifiés, très experts, donc sur lesquels il y a une demande extrêmement importante et sur lesquels aujourd'hui nous n'avons pas suffisamment de compétences. Et moi je suis toujours marqué pour rencontrer énormément de dirigeants d'entreprise qui me disent: je n'arrive pas à recruter les compétences dont j'ai besoin et j'anticipe que demain ça sera encore plus compliqué. Et puis de l'autre côté, vous avez, on va dire, deux phénomènes. Le premier, vous avez une population qui a de plus en plus de mal à s'insérer dans le marché de l'emploi, et en particulier de s'insérer de façon durable sur le marché de l'emploi. C'est ce qu'on voit, nous, bien évidemment, autour d'une toute une partie de notre population d'intérimaire. Et puis vous avez toute une partie de la population qui craint d'être déclassé par toutes ces mutations, qui craint de perdre son emploi et qui sait que sans doute par manque de formation et de capacité justement à être parmi ces gagnants, c'est que s'ils sortent du marché de l'emploi ou de l'entreprise dans laquelle ils sont, ils vont sans doute être capables de rebondir, mais à des niveaux de salaire qui sont très inférieurs. En particulier, ça fait partie des sujets nous qu'on a analysés sur les États-Unis, parce qu'en France, on peut dire, bon, les gens perdent leur emploi, ils vont au chômage. Aux États-Unis, vous pouvez dire, mais finalement, pas de problème, pas de chômage. Sauf que vous avez toute une partie de la population, en particulier qui travaillait dans l'industrie, qui a perdu son emploi, et qui aujourd'hui, par exemple, travaille dans la grande distribution. Et donc, qui a perdu 30 à 40% de son pouvoir d'achat. Donc, nous, ce qu'on a le sentiment, c'est ce que les économistes sociologues évoquent comme étant une polarisation du marché du travail. Donc des gens très compétents, très experts, qui, en plus, comme il va y avoir une pénurie de ressources, pourront choisir l'emploi qu'ils voudront, ils auront une capacité à faire évoluer leur pouvoir d'achat. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ont du mal à s'insérer, ou qui craignent donc d'être déclassés, et puis finalement au milieu, et une capacité de passer de l'un à l'autre qui est relativement difficile. Et je pense que tout le challenge de nos sociétés, ça a déjà été ce qui a été fait dans le cadre, on va dire, de la mondialisation, mais sur un sujet qu'on pourrait considérer, enfin, que nous en bon français on appelle du labor arbitrage, c'est-à-dire j'ai des coûts inférieurs à un endroit et par rapport à un autre, donc je fais un arbitrage par rapport à ça. Mais si demain on commence à anticiper ce qui va pouvoir arriver avec l'intelligence artificielle ou un certain nombre, ou le blockchain ou un certain nombre d'autres éléments, un certain nombre d'emplois vont disparaître, et le risque c'est qu'une grande partie des gens ne puissent se repositionner que sur des emplois faiblement qualifiés ou faiblement rémunérés. Et donc la question, à mon avis, qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on fait société dans ce monde-là, et peut-être qu'on revient justement sur ce que sont les problématiques qui pouvaient être celles du 18e siècle, et il va falloir qu'on trouve les solutions par rapport à ça.
Alors je me tourne vers Gérald Carsenti. En 17 ans chez IBM, puis comme dirigeant de Hewlett-Packard France, vous avez été témoin de progrès technologiques, progrès économiques également. Est-ce qu'à chaque période de changement comme ça, il y a un risque pour le progrès social, comme M. Oumiak vient de l'expliquer ?
Il y a toujours un risque, parce que le progrès social se fait par étapes, c'est-à-dire que c'est des mutations. Et donc forcément, il y a des périodes de latence où il y a une période d'adaptation, on va dire. Mais la réalité, c'est que quand on regarde ce qui se passe, quand on reprend ce que Daniel Cohen décrivait tout à l'heure, les différentes révolutions industrielles, la première, la deuxième, avec la production de masse, la troisième, c'est l'Internet en 95 qui vient à nouveau changer la donne, puisqu'elle replace en fait finalement l'information comme étant un critère de croissance, un moteur de croissance. Précédemment, c'était la reconstruction de l'économie mondiale suite à la Seconde Guerre mondiale. Précédemment, c'était la pensée. Avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui dominait le monde, c'était la pensée. C'est pour ça que la France avait un certain impact sur la société mondiale. Donc là, tout d'un coup, avec la quatrième révolution industrielle, on se retrouve avec une explosion technologique. Je voudrais faire un parallèle entre les deux vagues de start-up. On a eu cette vague qui a suivi la troisième révolution industrielle entre 95 et 2000. Et à l'époque, je me souviens qu'on opposait les deux modèles. On opposait la nouvelle économie et l'ancienne économie. On disait, tout le monde disait, les entreprises traditionnelles vont péricliter parce qu'elles ne sont pas adaptées, elles ne sont pas modernes, elles ne sont pas tout ce qu'on peut imaginer. La réalité a été différente. En 2000, c'est l'explosion de la bulle Internet, les start-up, la plupart disparaissent. Et il y a plein de raisons pour expliquer ça, mais la principale raison, c'est que la promesse technologique que les start-up avaient faite au marché, en particulier au marché financier, qui, je le rappelle, injecte les fonds et donc permet de faire de la croissance et de générer de l'emploi, n'a pas été au rendez-vous. Ce qui se passe actuellement depuis, et Blablacar en est un bon exemple, ce qui se passe depuis 2008, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que cette quatrième révolution arrive au moment où il y a une crise économique équivalente à celle de 1929, c'est que la technologie permet de tout faire. On peut tout imaginer. Imaginez Uber qui arrive, pour ceux qui sont utilisateurs d'Uber, en quelques minutes, en 3 minutes, vous pouvez avoir une voiture à votre disposition, généralement avec un niveau de service qui n'a rien à voir avec les systèmes de taxi qu'on avait l'habitude d'utiliser. C'est totalement démonétisé, vous n'avez pas besoin de payer avec du cash, vous recevez votre facture par email et ça change complètement la donne. Même chose dans le monde de l'hôtellerie avec Airbnb, Booking.com ou TripAdvisor, même chose fondamentalement dans tous les secteurs économiques. On parlait de smart cities, les cités intelligentes, on parlait d'hôpital digitaux, mais c'était très virtuel il y a encore quelques années. Avec le progrès technique qu'on a maintenant, les IoT, le cloud, l'analytique qui permet d'utiliser les données de façon intelligente, on est en train de changer la donne. Donc moi, mon avis, c'est que le progrès technologique amène toujours un progrès à terme économique, à condition qu'il soit accompagné, puisque ce sont des mutations. Et là, mon point est que c'est là que moi je suis pour la liberté d'entreprendre, je suis très libéral sur le plan économique, mais je pense qu'il faut à un moment donné que l'État joue son rôle, parce que quand l'État ne joue pas son rôle, il n'y a pas d'accompagnement des mutations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, que Daniel Cohen mentionnait également, il se passe quoi ? Brexit, élection de Donald Trump, montée des extrémismes dans l'Europe, parce que c'est quand même ce qui se passe. C'est quoi ? Comment peut-on traduire ça ? Ben, y a un vide au niveau du sens. Et d'ailleurs, les jeunes générations sont à la recherche d'un sens. Les jeunes générations, ce qu'elles veulent, c'est comprendre pourquoi elles vont aller travailler le matin, pourquoi elles sont obligées de travailler pour une personne, pour une entreprise, etc. Il n'y a plus ça. Donc il faut redonner du sens à ce que nous faisons, sinon le monde ne va nulle part. Et surtout, ça permet aussi d'adapter ces mutations technologiques. Parce que sinon, on laisse sur le bas-côté des générations entières, parce que ça s'est toujours passé comme ça. Quand j'ai démarré ma carrière, on me disait « l'ordinateur va tuer l'emploi », on voit bien que ça n'a pas été le cas. Toutes les générations, en tout cas depuis la deuxième révolution industrielle, ont toujours amené une augmentation du bien-être. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière et qui montre que finalement, on vit mieux, plus longtemps, en meilleure santé, dans un environnement plus agréable. C'est une évidence. Il vaut mieux être né aujourd'hui, on vit mieux qu'il y a 200 ans. Alors on a toujours la nostalgie des années passées, mais la réalité, elle est là. Le progrès amène toujours un mieux-être, à condition qu'il soit accompagné. Ça veut dire que les États ont des responsabilités d'assurer la croissance économique, transformer l'école pour l'adapter aux enjeux de la société moderne, faire en sorte que les entreprises ne soient pas à distance de l'école, mais connectées. Je pense que demain, on enseignera de façon très différente. Les écoles, les universités seront obligées de se connecter aux centres de recherche et aussi aux entreprises pour que les étudiants aient une formation totalement différente. Le digital va tout transformer.
On vient de l'évoquer et je voudrais avoir votre réaction, Daniel Cohen. Il y a la face sombre du progrès technologique avec des laissés pour compte notamment. D'ailleurs, lorsqu'il y a des progrès économiques, à chaque fois ça peut faire peur. On se souvient des temps modernes de Charlie Chaplin. Aujourd'hui on parle beaucoup d'ubérisation. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer tout cela ?
D'abord, le point de départ, en restant économiste et en associant la mesure de toute cette transformation à un index très mauvais, mais bon, c'est celui qu'on a qui s'appelle le PIB, on voit que la révolution numérique ne crée pas le supplément de croissance que la révolution du siècle passé avait produite. On est sur des étiages beaucoup plus bas, au point que certains économistes parlent de stagnation séculaire pour caractériser la période où on est, c'est-à-dire que on était sur des rythmes dans les 30 glorieuses de 5% l'an, mais sur le 20e siècle, disons de 1870 à 1970, sur des rythmes de croissance du revenu par habitant de 2%, donc ça faisait des croissances moyennes de 2 plus le taux de croissance de la population, ça pouvait aller jusqu'à 3. Là, on est sur des rythmes de croissance de 1% tout compris, et donc par habitant, en fonction de la démographie, des choses beaucoup plus faibles. Dans le cas des États-Unis, vous parliez très justement de la polarisation de l'emploi. Une des raisons de la colère populaire aux États-Unis qui s'est exprimée par le vote de Trump, une des raisons, je crois, c'est le fait que depuis 30 ans, 90% de la population américaine, 90%, on ne parle pas de grosses minorités, on parle vraiment d'écrasante majorité des Américains, n'ont tout simplement connu aucune progression du pouvoir d'achat, aucune, zéro. En corrigeant par l'inflation, évidemment, que toute la richesse a été captée par les 10% les plus riches, et qu'au sein de ces 10% les plus riches, et des statistiques sont bien connues maintenant, le 1% a capté la moitié de ce que le 10% a collecté. Et d'ailleurs, on pourrait continuer, c'est ce qu'on appelle une propriété fractale, c'est-à-dire que le 1% lui-même, le 0,1, les 10% du 1%, ont eux-mêmes capté la moitié de ce que le 1% a collecté, et ça pourrait continuer comme ça. C'est-à-dire que 0,1% de la population, c'est pas beaucoup de monde, a capté un quart de la croissance économique totale des États-Unis. Donc il y a quelque chose de décevant par rapport à ce qu'encore une fois est produit la révolution précédente. Et au fond, c'est un peu ça la question quand même. C'est-à-dire pourquoi cette révolution numérique qui transforme nos conditions d'existence, tout est numérisé en quelque sorte, pourquoi on n'en voit pas les traces dans cette statistique, le PIB, et on n'en voit pas les traces non plus dans le pouvoir d'achat des gens. Alors, il y a l'éternel procès, c'est mal mesuré, parce que ce que fait le numérique, c'est du qualitatif, c'est pas du quantitatif. Bon, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'économistes qui croient à cet argument. Si vous prenez au XXe siècle, par exemple, ce qu'a fait l'électricité, la trace dans le PIB de l'électricité, c'est le prix d'une ampoule. Bon, c'est pas grand-chose relativement à ce que l'électricité a permis de vivre comme changement d'environnement. On est passé pour le coup de l'ombre à la lumière. Bon, et c'est le prix d'une ampoule. On voit bien que ça ne peut pas mesurer ce que produit le progrès technique à un moment donné. Je crois que les automobiles rentrent dans les statistiques du PIB américain en 1935, très tard, parce qu'il faut un stock suffisant pour qu'on puisse en apprécier la trace dans le PIB. Donc il y a toujours eu un problème de décalage. Peut-être qu'il est plus profond aujourd'hui, mais bon, c'est juste un problème ancien. Donc pourquoi ? Alors, il y a deux explications, et je vais profiter que Frédéric est là pour commencer par la première, qui est la question de la société de consommation. Entre 1870 et 1950, pour le dire comme ça, on pourrait aller jusqu'en 1970, le monde, et là je reprends les arguments d'un économiste célèbre qui s'appelle Gordon, qui a beaucoup écrit là-dessus, je crois qu'il dit des choses très intéressantes, le monde a totalement changé de face, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'électricité, on en a eu, on a eu toutes les conditions d'urbanisation, la pasteurisation en fait partie, qui ont transformé l'hygiène de vie dans les villes, qui était un mouroir auparavant, on mourait dans les villes, le taux de croissance spontané des villes, or les migrations, c'était strictement négatif, on a eu le tout à l'égout, on a eu le téléphone, on a eu la radio, on a eu un peu plus tard la télévision, on a eu toutes ces transformations qui ont fait qu'on a pu vivre dans des villes. L'ascenseur qui a permis une certaine verticalité, etc. Bon, Gordon dit, voilà, je vis via Chicago, à Chicago, il fait plus 40 en été, moins 40 en hiver. Là, depuis maintenant un siècle, il fait 20 degrés dans mon appartement, je mets le réhostat. Bon, que fait la révolution numérique par rapport à cette société de consommation ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais l'une d'entre elles, et je crois vraiment, je me sers toujours de Frédéric quand je fais une présentation, parce que la présentation qu'il avait faite, qu'il a refaite sur l'optimisation de la ressource automobile me paraît très intéressante. Que fait la révolution numérique ? Elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. passer. Elle permet de gérer les externalités négatives, il y a trop de gens, il y a du bruit, etc., de l'ancienne révolution industrielle. Elle ne produit pas une nouvelle société de consommation, elle permet d'être plus économe dans l'ancienne. Ce qui est évidemment très bien, c'est du temps, c'est de la respiration, c'est de la convivialité, mais ça n'a pas cette force d'entraînement qu'avait l'ancienne, qui était bêtement de donner un travail salarié aux gens pour produire des biens nouveaux. C'est tout à fait autre chose, c'est chacun comme individu qui trouvons les ressources d'économiser sur le monde industriel actuel. On comprend, et c'est l'argument fondamental de Gordon, que ça n'a pas la même traction. C'est Airbnb, c'est génial, ça permet de partir en vacances moins cher, mais ça n'est pas une construction de logement, c'est autre chose, c'est on gère l'existant autrement. Encore une fois, rien contre ça, c'est juste pour expliquer qu'on ne trouve pas dans les statistiques de la croissance ce que fait le numérique, parce qu'en effet, il gère davantage l'existant plus rationnellement qu'il ne produit de richesse. Alors il y a d'autres silos, évidemment. Je vois Claude Le Pen est là, il va parler. La santé, c'est un grand espoir du numérique. On espère qu'on vivra éternellement. Hein. C'est la promesse transhumaniste. Je ne sais pas si elle se matérialisera. Mais là, on voit qu'en effet, vous dites non, bien sûr, mais on voit qu'il y a une grande attente. Les transhumanistes parient sur la fusion du numérique et du biologique. On aura plus de capacité d'utiliser notre intelligence qu'on ne fait aujourd'hui le jour où, je ne sais pas, notre cerveau sera téléchargé quelque part et on pourra jouer avec lui comme on joue avec un jeu d'échecs. Je ne sais pas, c'est de la science-fiction, mais ça fait partie des promesses de cette société numérique. Le problème, si je puis dire entre guillemets, c'est que la santé, ça allonge la durée de vie, mais ça ne dit pas ce qu'on en fait de la vie. Donc il y a quelque chose qui reste comme une interrogation philosophique qui se creuse davantage autour de ce point, mais encore une fois, qui sera en dehors des statistiques du PIB. Peut-être que c'est un autre problème de mesure plus fondamental. Puis la troisième chose que fait le numérique, ça permet de chatter, d'être sur les réseaux sociaux. Bon, au lieu de voir la télévision, c'était quand même 4h30 par jour en moyenne aux États-Unis dans les années 50 et 60. On chatte, c'est pas mesuré dans les statistiques, mais pas davantage que le temps qu'on passait à regarder la télévision. Et là, ça ouvre à quelque chose d'autre, qui est de l'activité, qui est du plaisir, mais qui ne va pas régler les conditions d'existence sociale de ces jeunes qui chatent, parce que quand même, au bout du compte, il faut un salaire et être capable de payer son loyer et envoyer ses enfants à l'école. L'ubérisation est un très bon exemple. On peut tout à fait acclamer l'ubérisation comme une manière... c'est vous qui en parliez, je ne sais plus lequel de vous, de pouvoir immédiatement rendre disponibles des voitures, et personne ne peut être contre ça, c'est du progrès technique. Est-ce que ça veut dire que le modèle social d'Uber, c'est-à-dire des professions indépendantes qui fait que le matin on se demande combien de courses je vais avoir, est le bon? C'est pas sûr. Comme vous savez, aux États-Unis, Uber a été retoqué parce qu'on a considéré qu'en réalité les employés d'Uber, entre guillemets, pour Uber ce n'est évidemment pas ses employés, devaient être justement considérés comme tels. Je ne dis pas qu'il y a une solution simple, je dis que la question se pose et on est un peu au milieu de ces incertitudes-là.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites et j'aimerais qu'ensuite on fasse un premier tour pour voir s'il y a des questions. Et puis après, je vous ferai aussi réagir. Oui, simplement rebondir sur ce que vous disiez sur la justice californienne qui impose à Uber de salarier ses conducteurs. Alors, peut-être, je pose la question à vous, Frédéric ou Marie Vorgane, est-ce que ça, c'est un progrès social ou c'est une entrave économique ? Ça dépend de quel côté on se place.
Alors, bon, puisqu'on parle d'Uber, d'Uberisation, on parle d'économie du partage, on parle de tout un tas de choses, c'est très difficile de comprendre ce qu'il y a derrière. Il y a une manière de voir qui est assez simple, qui est de repartir du socle technologique. Tous les changements technologiques qu'on est en train de voir aujourd'hui reposent sur trois technologies majeures qui sont aujourd'hui maîtrisées et qui bouleversent tout un tas de secteurs, et qui sont les bases de données, les moteurs de recherche et la connectivité. Quand on couple ces trois technologies-là, on peut créer beaucoup de services de partage de ressources qui avant étaient individuelles, ou en tout cas non partagées. Mais ça touche beaucoup de domaines. Donc ça a commencé par le partage de contenu avec des services comme Napster en 99, et maintenant on a du Spotify, du Deezer, du Dropbox, du Netflix, voilà, où on partage du contenu.
Dans la musique et les vidéos, et pour ceux qui connaissent,
voilà,
pas.
Voilà, pour le contenu. Ensuite, partage de connaissances avec Wikipédia, et puis aussi tous les MOOCs maintenant, donc tous les Massive Open Online Classes, qui sont Udemy, Coursera, enfin tout un tas de solutions qui permettent de partager le savoir. On peut aussi, grâce à toujours à ces mêmes technologies, hein, base de données, moteur de recherche et connectivité, donc accessibilité permanente, révolutionner le domaine de la banque, puisqu'on peut partager son argent aujourd'hui sur des services de crowdfunding ou de crowdlending comme Kickstarter ou comme Lending Club ou Funding Circle. Donc ça aussi, c'est une autre manière de partager son argent plutôt que de le mettre dans une banque et d'avoir une certaine opacité par rapport à l'usage. Là, aujourd'hui, les gens peuvent financer des projets qui leur tiennent à cœur et qu'ils veulent voir. Arrivé, il y a aussi évidemment les réseaux de personnes, donc avec Facebook et LinkedIn notamment, qui sont les deux gros réseaux, plutôt pour les amis et plutôt professionnels, mais avant on avait un Rolodex avec nos contacts, maintenant c'est sur LinkedIn. Ensuite vous avez évidemment le partage d'assets, enfin de biens, donc les voitures et les maisons étant en premier, puisque c'est les biens les plus chers qu'on possède et on peut les partager par Airbnb, on peut, pour les maisons, on peut partager les voitures sur Drivey ou sur BlaBlaCar, enfin voilà, dans cette dimension-là. Et ensuite il y a une sixième catégorie qui est le partage de temps et d'argent. C'est celle-là qui est aujourd'hui très controversée. Pourquoi ? Parce que historiquement, partager son temps et son argent, ça s'appelle travailler. Quand vous donnez du temps et de l'argent en échange du temps et des compétences, pardon. Quand vous partagez du temps et des compétences contre de l'argent, ça s'appelle travailler. Et donc ces plateformes-là, c'est des plateformes de freelancing. Vous avez trouvé, alors aux États-Unis, vous avez des plateformes comme Upwork ou bien Semtac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est des services sur lesquels vous allez pouvoir louer des graphic designers ou des photographes ou une femme de ménage pour une journée, une heure, trois semaines. Et vous avez aussi Uber qui est une plateforme de freelancing, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont donner leur temps en échange d'argent et ils ont une voiture et puis des compétences de conduire. Et donc en fait quand on a cette classification là en tête, déjà on ne peut plus appeler Uberisation tout, parce qu'en fait c'est de la révolution technologique à base de trois technologies très simples, mais ça touche tous les secteurs, évidemment de la musique et de l'industrie cinématographique jusqu'au taxi, en passant par la banque et puis les hôtels et l'industrie automobile. Donc en fait on touche tout, c'est une révolution qui est beaucoup plus large que ça. Donc après je ne sais plus ce qu'on peut appeler Uberisation ou économie du partage, mais enfin en gros on a des nouvelles technologies qui nous permettent de partager beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je peux continuer pendant 3 heures, il faut m'arrêter.
Non, parce que je voulais passer la parole à Gérald Carcenti qui voulait réagir à ce que disait
oui,
Daniel.
Oui, moi je voudrais réagir parce que d'abord c'est très intéressant, le fait est que d'abord, moi, je ne me place pas comme un défenseur de la croissance, enfin, ou du progrès à tout va. Je pense que moi, je suis plutôt un optimiste de nature, donc je pense que le progrès amène du mieux et qu'il ne faut pas freiner le progrès, il faut l'accompagner. Et moi, je suis donc plutôt positif sur le progrès. Néanmoins, dans les années 80-85, il y a eu un grand économiste, prix Nobel d'économie, Robert Solow, qui justement publie un papier, plusieurs papiers d'ailleurs, où il explique que l'informatique dans ces années-là ne produisait pas de l'emploi, alors que même en détruisait. Et donc beaucoup ont réagi. J'ai moi-même à l'époque, dans le cadre de Sciences Po, fait des recherches là-dessus et démontré en fait qu'il avait raison, mais il avait raison à son époque. Parce qu'il y a un phénomène en économie que Daniel Cohen et que tout le monde connaît, c'est la diffusion technologique. Et la diffusion se raccourcit au fur et à mesure qu'on évolue. Donc l'impact de l'imprimerie, ça s'est fait sur des siècles, l'impact du chemin de fer sur moins longtemps, l'impact de l'électricité encore moins longtemps, le téléphone encore moins longtemps, l'ordinateur très très peu de temps, et maintenant les révolutions industrielles se font sur 20 ans, voire on pense que ça va être plus court. Donc ce que disait Daniel Cohen est vrai, à savoir qu'aujourd'hui on peut se questionner sur ce que génère la mutation digitale, mais je pense que les choses vont évoluer très rapidement dans le temps. Moi, je voudrais juste faire une distinction au niveau de l'innovation. Parce qu'il est vrai que si on parle des innovations, on va dire, je ne sais pas comment trop les qualifier, mais on va dire de progrès ou d'optimisation, dans lesquelles j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait Frédéric sur BlaBlaCar, mais BlaBlaCar, Airbnb, etc., ce sont des innovations d'optimisation, on peut dire. Et en ce sens, moi, je trouve que ça crée quand même de l'emploi, puisque déjà, les siens, déjà. Après, on peut challenger, on peut dire ça crée de l'emploi chez BlaBlaCar, ça en détruit potentiellement à la SNCF, puisqu'elle ne peut plus croître à la même vitesse. On pourrait éventuellement dire ça. La réalité, c'est que si on prend l'ubérisation en tant que telle, qui appartient toujours à la première catégorie d'innovation, c'est vrai qu'Uber, on peut contester, on peut dire c'est un modèle social qui questionne, il me questionne. Néanmoins, il y a plein de personnes qui n'avaient pas d'emploi, qui vivaient dans des zones extrêmement défavorisées et qui maintenant ont un travail, ont un salaire et sont intégrés à la société. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Mais maintenant, je voudrais parler des deuxièmes, la deuxième catégorie d'innovation. C'est celle que vous donniez au moment de, dans votre introduction, à savoir l'innovation fondamentale qui change un secteur. Si on prend le domaine de l'hôpital numérique de demain, ben, on ne parle plus d'innovation technologique, on parle de l'expérience du patient. C'est-à-dire qu'entre le moment où malheureusement on détecte pour quelqu'un une maladie, le moment où il est pris en charge, le moment où il est dans l'hôpital à faire ses examens, le suivi et le post-maladie, eh bien, toute cette chaîne digitale, parce que tout va être digitalisé, on va utiliser des outils, l'analytique, pour essayer d'optimiser la prédiction et puis finalement les soins, vont permettre de changer la donne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous, on l'assiste, puisqu'on mène des projets là-dessus. Eh bien, vous avez toute une chaîne de sociétés qui se crée pour apporter des solutions qui, mis bout à bout, amènent cette chaîne de valeur dans le monde de l'hôpital. Ça, ça crée de l'emploi. Et on l'a mesuré. On sait aujourd'hui que ça crée de l'emploi. Pour que ça puisse être le cas dans tous les secteurs économiques, encore une fois, faut-il que les conditions soient mises en place pour qu'on puisse non seulement le faire, le mesurer, et là l'État a un rôle à jouer extrêmement important. On ne peut pas aujourd'hui mener une politique en France ou dans n'importe quelle partie du monde si les politiques n'ont pas compris ce qu'est cette révolution digitale et comment elle va impacter la société de demain. Ça me paraît impossible.
Bernard Meunier, quel est le rôle de la recherche fondamentale, justement? Est-ce qu'elle n'est pas assez loin, finalement, de toutes ces petites innovations technologiques, enfin, qui sont parfois des grandes aussi, mais qui passent par des applis, par des plateformes? Comment est-ce qu'on fait le lien?
Toute la révolution technologique dont on parle, s'il n'y avait pas eu derrière une recherche fondamentale de haut niveau rapide, on n'en parlerait pas aujourd'hui. J'ai personnellement connu l'époque dans les laboratoires où il n'y avait pas d'ordinateur. J'ai connu l'époque où il y avait des ordinateurs qui avaient à peu près la taille de la moitié de cette pièce. Et actuellement, le même travail, alors qu'il fallait deux nuits de calcul, se fait pratiquement sur un téléphone portable. Ce qui a changé fondamentalement, et en particulier sur les 10 dernières années, entre la première pseudo-révolution numérique et ce qui se passe actuellement, c'est une question que les chimistes appellent cinétique. C'est la vitesse, la notion de vitesse. Tout le travail dont vous parlez, sans un terminal qui serait de cette poids-là et de cette taille-là, n'existerait pas. Et c'est ça qui vient de changer brutalement. Sur les 10 ou 15 dernières années, on a maintenant des performances au bout de cette machine qui fait 130 grammes que l'on n'avait pas dans l'informatique que vous avez connue chez IBM et Hewlett-Packard où il fallait des terminaux importants. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire qu'on a des moyens, des vitesses de décision. Si on doit implanter une usine, on peut discuter avec des téléphones portables, optimiser très rapidement pour savoir à quel endroit on le fait, et comme en plus on a beaucoup de robots dans ces usines, et que les robots prennent de moins en moins de place, on décide rapidement, en moins de 15 jours, on peut mettre une usine dans le monde. Notre mode de décision dans les sociétés, de discussion, de dialogue, au niveau des partis, des syndicats, est un système qui n'a pas changé depuis très longtemps. Et donc on a une dichotomie, un décalage complet entre les prises de décision dans la nouvelle économie qui a des terminaux puissants par rapport aux prises de décision politiques, sociales et syndicales. Je vais donner un exemple. Au moment où on bascule en France du cheval qui tirait la charrue au tracteur, les maréchaux ferrants disparaissent. Mais ils disparaissent, mais ils s'installent très rapidement parce que le fils du maréchal Ferrand, qui est un peu plus jeune et dynamique, il dit « je vais réparer les charrues, les tracteurs et les voitures qui commencent à apparaître ». Donc il y a un changement qui se fait rapidement dans l'espace de quelques années. On a vu disparaître les chevaux après la Deuxième Guerre mondiale au profit des tracteurs. Au lieu de fabriquer des chars d'assaut, on pouvait fabriquer des tracteurs, des usines Deuxième Guerre mondiale. On a cette mécanisation qui arrive, mais qui reste sur le plan local. Donc il y a une adaptation de la société, alors qu'actuellement, effectivement, ce qui vient de changer brutalement, c'est que si on veut faire une usine automobile à l'autre bout de la planète, on peut fermer une ici rapidement et en ouvrir. Parce qu'on aura les moyens de discuter avec le directeur de l'usine, de savoir à tout moment comment ça se passe. Bon, il y a que deux décalages horaires, c'est un peu plus compliqué pour les qu'on est aux quatre points du monde. Mais on arrive à gérer les choses grâce à ces objets-là qui ont totalement changé. Il y a un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas se faire avant, quoi. Airbnb et votre société, c'est téléphone portable. Sans téléphone portable,
fallait avoir son gros ordinateur et on ne pouvait pas se promener dans la rue pour réclamer un taxi. C'est ça de changer, c'est la vitesse. Et la difficulté qu'on va avoir est une difficulté au niveau prise de décision économique, sociale et politique, c'est que jusqu'à présent, nos sociétés n'ont pas intégré cette notion de vitesse. Donc, il va falloir changer. Et on voit bien que l'électorat change plus vite que les sondages d'opinion, plus vite que les prises de décision, et que ça va nous poser des petits problèmes à gérer dans l'avenir.
Marie-Vogel Barzic, après je passe la parole à la salle.
Juste pour effectivement pour peut-être proposer un regard un peu différent. Je pense que ce qui se passe quand on voit ce que fait un Blablacar par exemple, c'est qu'il impose, ou un Uber, un nouveau standard par rapport à un standard d'usage, par rapport à un besoin du marché qui était existant. Et c'est vrai que c'est un type d'évolution, et je ne sais pas si on peut parler de progrès, en tout cas un progrès en termes de consommation, qui est particulier et qu'il faut réellement dissocier d'une autre forme de progrès qui est plus fondamentale et plus profond. Mais ce type de progrès-là, en fait, on voit se reconstruire un monopole et une rente autour de ce nouveau standard. Et ça, cette histoire-là dans l'économie, elle s'est déjà construite et reconstruite.
Alors, je suis sûre que le débat a déjà suscité quelques questions, et je vois quelques bras qui se lèvent. Si vous voulez bien vous présenter et poser une question. Allez-y, réessayez.
Oui, je suis Christian de Zobry et j'ai travaillé dans l'industrie automobile et j'ai travaillé aussi dans un autre organisme qui a disparu grâce à M. Giscard d'Estaing qui était une filiale du commissariat au plan. Je pense que, et aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est des organismes où, effectivement, quand on parle de décision, où il y a une décision collective, et je pense que la planification indicative et le commissariat général au plan étaient un instrument. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument collectif de la décision. Et donc, je pense qu'il faut inventer aujourd'hui des nouveaux instruments collectifs de décision. Et bon, à l'époque, bien sûr, il y avait un certain partage de la croissance. La croissance, tout le monde sait que c'est fini. Hein, c'est pas monsieur 1%, c'est pas suffisant. Donc, on se trouve devant une autre réalité. Et bon, peut-être que les économistes se trompent, mais disent que le numérique ne créera pas d'emploi. Donc il va bien falloir trouver quelque chose pour les électeurs de M. Trump et ceux de Mme Le Pen. Alors, et voilà, donc moi je pense qu'il faut trouver au niveau étatique, au niveau des partenaires sociaux, parce que le commissariat au plan, c'était le patronat, c'était les syndicats, c'était un organisme tripartite, et ce qui n'existe plus aujourd'hui en France, il faut trouver quelque chose au niveau collectif pour faire du progrès social. Et le progrès social, moi, je le définirais par un mot, c'est la solidarité.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, sans revenir peut-être au plan, hein, vous en serez d'accord avec moi, quel peut être le rôle de l'État? Est-ce qu'il a compris quelque chose, l'État, à cette révolution technologique en cours?
Alors, moi, je pense qu'ils sont très en retard. Et je pense qu'on ne pourra pas régler l'ensemble de ces problèmes par du traitement social. Et qu'il va falloir, parce que c'est un peu le risque, c'est de dire bon, finalement on fait des gagnants, on fait des perdants, les gagnants très bien et les perdants on essaie d'en faire un certain traitement social. Et d'ailleurs, moi à titre personnel, je vois pas bien où est-ce qu'on va lorsqu'on évoque, en plus on dit mais finalement la solution on l'a, c'est le revenu universel. Ceci étant, si c'est proposé aux gens avoir entre 600 et 800 euros par mois, ça leur permet sûrement de subsister. Ceci étant, ça existe déjà, ça s'appelle le RSA. Et donc, ce qui est le plus important, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on redonne de l'espoir aux gens de pouvoir recréer un ascenseur social. Je pense que ce qui a fait la force de nos sociétés depuis cette révolution industrielle, c'est cette capacité à créer un ascenseur social. J'ai toujours pensé que... Alors, je sais pas. Alors d'abord, les générations de nos parents auraient le sentiment qu'elles vivaient mieux que leurs grands-parents et que nous, on vivrait mieux qu'eux. Bon. Je ne sais pas s'il faut que ce soit... Je ne sais pas si on aura cette capacité demain, mais ce qu'il faut en tout cas, c'est qu'on réussisse à casser, parce que ce que crée aussi l'ensemble de ces sociétés, c'est des problématiques où les enfants de ceux qui réussissent, et les enfants de ceux qui ont des difficultés ou échouent. Donc, vous créez des ruptures dans la société. Donc, Je crois que ce qui est important, c'est qu'on redonne de l'espoir. Comment est-ce qu'on peut redonner de l'espoir? Je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est l'école. Et que d'une certaine façon, alors ce qui est clair, c'est que l'école a une difficulté. Je ne reviendrai pas sans doute sur... Après, on a tous notre avis sur la façon dont l'école est gérée. Mais l'école, et c'est vrai, et ça a été vrai de tout temps, a toujours plus de difficultés. Enfin, il lui faut plus de temps pour s'adapter que la façon dont l'économie elle-même s'adapte. Ceci étant, il faut qu'elle s'adapte. Et je pense que le premier sujet, c'est qu'il faut accélérer la vitesse d'adaptation de l'école à ce qu'est le monde dans lequel on vit.
Ça passe par quoi ?
Ben, ça passe. Ça passe par un sujet, alors je sais, qui est très très polémique, mais si en particulier un des éléments qui est très important, c'est l'insertion des gens sur le marché de l'emploi, il faut que ça devienne un des objectifs de l'école. Bon, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que ce n'est pas aujourd'hui son objectif. On peut en débattre, mais au moins qu'on sache ce que l'on veut. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse en sorte de ne pas laisser les gens au bord de la route. Nous avons fait un choix dans notre société qui est, et pour en particulier gérer le problème du chômage, c'est de beaucoup indemniser, peu accompagner. Beaucoup d'autres pays ont décidé de faire autrement. La question n'est pas de savoir s'il faut moins indemniser. La question, elle est claire, enfin en tout cas la solution pour moi, elle est claire, il faut plus accompagner. Et il faut accepter, et parfois il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter de le reconnaître et de le dire, qu'il y a un certain nombre de gens, si vous ne les accompagnez pas, ils s'en sortiront pas tout seuls. Vous aurez beau d'ailleurs, y compris mettre en place des dispositifs comme le compte personnel d'activité, où dire, mais ils auront droit à un certain nombre de formations, et ensuite, encore faut-il qu'ils sachent quelles formations ils peuvent utiliser au mieux pour être capables de se réinsérer sur le marché de l'emploi, et non seulement de se réinsérer, mais aussi de se redonner de l'espoir pour essayer de continuer à progresser. Donc moi, je crois qu'il y a deux enjeux majeurs par rapport à ce que l'ensemble de ces révolutions sont en train de nous préparer. Un, c'est l'adaptation de l'école pour faire en sorte que demain, on ait des gens qui soient capables de s'insérer plus facilement et mieux sur le marché de l'emploi tel qu'il va être défini et qui va s'adapter de façon extrêmement importante. Et deuxième sujet, tous ceux qui ont aujourd'hui des difficultés à s'insérer sur le monde de l'emploi, il faut les accompagner, il faut sans doute, et c'est là aujourd'hui sur le point de Gérald, sur le rôle de l'État, il faut sans doute recréer un vrai service public de l'emploi ou du réemploi pour aider les gens à se réinsérer. Et là encore, la formation, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le cours de la carrière, va devenir encore plus important et un sujet beaucoup plus critique et sur lequel il faudra sans doute qu'on investisse encore beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante ou en tout cas de façon beaucoup plus efficace que ce que l'on a fait au moins sur ces 20 ou 30 dernières années.
Alors Frédéric Mazella, c'est une question très française que je vais vous poser, mais est-ce que l'État doit plus se préoccuper des nouvelles technologies ou moins s'en préoccuper?
Mais plus. Mais c'est déjà bien, c'est-à-dire ça progresse bien ces dernières années. Mais justement, pour resituer, je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Je pense que la priorité dans ces périodes où effectivement il y a beaucoup de changements, il y a une sorte de révolution, en tout cas une technologie nouvelle qui vient bouleverser pas mal de choses, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage. J'irai plus loin que l'éducation, je dirais l'apprentissage et nos méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que, en fait, ça va tellement vite. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, la difficulté principale quand on est une société qui elle-même doit ramer dans ces espèces de courants de choses extrêmement nouvelles, c'est qu'on ne trouve pas des gens qui savent faire ce qu'il faut faire. On ne les trouve pas. Enfin, il n'y en a pas assez. La moitié des jobs chez BlaBlaCar aujourd'hui, il y a 500 personnes, la moitié des jobs n'existaient pas il y a 4 ou 5 ans. Ils n'existent juste pas. Donc il n'y a personne qui a été formé pour ça parce que les jobs eux-mêmes n'existaient pas. Donc autant dire que les formations, alors on est encore à 10 ans du moment où elles existeront. Donc en fait, le système de formation qui était adapté avant, peut-être en se disant, tiens, il y a un nouveau métier, alors on va faire un cours. Déjà, ça prend 5 ans, 7 ans, 8 ans avant que ce soit formalisé, conceptualisé. Puis après, hop, 10 ans plus tard, on a un cours qui a à peu près, qui parle à peu près du sujet, mais là autant dire qu'avec la vitesse à laquelle ça va, le cours quand il arrive sur le marché entre guillemets, c'est-à-dire être capable d'être proposé à des gens dans les entreprises pour les former sur ce sujet-là, il est mais en retard. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Donc en fait, tout le sujet de la formation, c'est même pas que l'école. Alors l'école, si on reprend juste l'école, il y a trois dimensions dans l'école et dans le l'apprentissage en général, il y a les connaissances, il y a la pédagogie et il y a la sociabilisation. C'est-à-dire que l'école, elle nous apprend ces trois choses-là. Donc on va apprendre des choses, on va apprendre à apprendre, donc on va avoir des profs qui vont nous donner envie d'apprendre, et puis on va apprendre qu'on n'est pas tout seul, on a des petits copains, et puis faut se sociabiliser, et puis voilà, c'est à peu près ça que l'école nous apprend. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, notamment, je parlais des MOOC tout à l'heure, donc les Massive Online Open Classes, viennent révolutionner la partie connaissance. Elles ne viennent pas révolutionner la partie pédagogie encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à inventer avec le serious gaming, avec aussi des possibilités d'apprentissage plus pédagogique. Et puis, le côté sociabilisation, c'est quelque chose qui restera toujours à l'école. Mais donc, si on voit l'école de cette manière-là, on voit que le digital commence déjà très très fort à impacter les choses, puisque tout simplement, un enfant de 14 ans avec un smartphone en sait 500 000 fois plus que n'importe quel prof qui va être devant le tableau. Donc c'est plus la connaissance la base de l'éducation. Avant, la connaissance était la base de l'éducation. C'est plus ça. Maintenant, il faut apprendre aux gens à apprendre et apprendre à s'adapter. Donc en fait, il faut revoir toutes nos méthodes d'apprentissage et toutes les manières avec lesquelles on encourage les gens à apprendre. Et donc ça se passe évidemment à l'école, mais ça se passe aussi beaucoup plus tard, parce que là aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle ça évolue, les métiers, quand on parle de carrière qui potentiellement dure une quarantaine d'années, quand on parle que les révolutions maintenant elles durent 20 ans, autant dire que entre ces 20 ans et ces 60 ans, la personne devra avoir eu 4 ou 5 ou 10 jobs. C'est plus un job à vie jusqu'à ce qu'on ait 60-65 ans. Donc ça a beaucoup changé, et donc il faut, si on revient à l'État et son rôle, effectivement, il faut mettre un gros accent sur l'accompagnement de l'apprentissage au sens général, mais j'ai envie de dire pas seulement pour les jeunes, pour tout le monde, parce qu'il faut aller très vite, parce que les Facebook, les Amazon et les Twitter, ils nous attendent pas.
Vous êtes d'accord, Marie-Vergane Barzic?
Oui, je suis d'accord. Il y a le sujet du rôle de l'État, qui est un sujet de l'éducation, et effectivement, le apprendre à apprendre. On est dans une époque éminemment darwiniste, où effectivement, le plus important, c'est de s'adapter, et on le voit au quotidien. Mais je pense que les entreprises, et les grandes entreprises, comme les petites, ont désormais un rôle extrêmement important dans l'adaptation, l'adaptabilité, le fait de rendre adaptable, on va dire, les individus qui constituent le corps social de l'entreprise. Et il faut, on a beaucoup parlé de progrès ou en tout cas d'innovation technologique. Le sujet de la façon dont les organisations impactés par le digital sont amenés à repenser leur organisation même, et Frédéric, tu diras pas le contraire compte tenu de la façon dont tu as structuré autour de valeurs très fortes ton organisation. Ça a fondamentalement amené à faire évoluer ces organisations. Et donc le rôle de l'État, certes, mais je pense, pour revenir à ce que je disais au début, que l'acteur économique, l'entreprise, a aujourd'hui un rôle et une fonction sociale qui est encore plus importante et dont elle doit se saisir.
Est-ce qu'elle le fait, juste l'entreprise ?
Et je pense qu'elle le fait. Je pense que les jeunes gens qui aujourd'hui deviennent entrepreneurs sont extrêmement conscients de la fragilité du monde, extrêmement conscients du fait qu'ils doivent poser une pierre positive sur ce monde. Je pense que les grandes entreprises sont très conscientes qu'elles ont un rôle à jouer à cet endroit. Aujourd'hui, la question, c'est sur le comment. Quels sont les indicateurs de long terme sur lesquels on peut se concentrer pour pouvoir planifier dans une période où on ne peut plus planifier et mettre en place une action de long terme. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup plus de questions que de réponses, mais je pense que les questions, on commence à les isoler, et c'est déjà le début de la réponse.
Il y avait une question là-bas. Est-ce que quelqu'un peut passer un micro à monsieur ?
Bonjour, Jacques Bordet, je suis un ancien du CNRS. Le problème de l'innovation, c'est que c'est pas la même chose que le progrès. Je suis content de voir que le mot progrès a réapparu, parce que pendant 15 ans, on ne parlait plus du tout de progrès, on ne parlait que d'innovation. Et quand je demandais aux responsables des programmes d'innovation qui finançaient les innovations, je leur disais, mais comment vous faites la différence entre une innovation qui est un véritable progrès et une innovation qui n'en est pas? La réponse que j'avais souvent, c'est une innovation qui crée un emploi, c'est un progrès, point barre. C'est-à-dire qu'il y avait une hégémonie vraiment de l'économique. L'économique, la technologie crée du pouvoir, effectivement, mais comme on l'a vu Il est capté par quelques personnes qui veulent bien faire du social pour avoir la paix sociale, mais ça ne suffit pas pour que les innovations aillent dans le sens de vraiment d'un progrès individuel, d'un progrès social. Je prendrai des exemples, par exemple, un programme qui a été financé par la France sur la télévision mobile. Effectivement, on l'a fait parce qu'il y avait des programmes de la recherche fondamentale, Bernard Meunier à faire derrière, en mathématiques, en composant. Donc ça a drainé la recherche fondamentale vers la télévision mobile. Il y avait des acteurs économiques qui avaient besoin d'être compétitifs en France. Donc on a créé ça pour la compétitivité économique. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de télévision portable? Comme l'a rappelé Daniel Cohen, les gens regardaient la télévision 7 heures par jour. Maintenant, ils peuvent la regarder sur leur téléphone mobile. C'est ça la différence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le progrès social par rapport à d'autres innovations qui auraient été bien plus utiles que de capter les consommateurs vers des gadgets? Le numérique, le problème, c'est qu'effectivement, on entraîne les consommateurs vers des gadgets. Ça ne crée pas forcément de progrès et surtout, ça ne crée pas de sens. On l'a dit, il faut une question de sens. Le sens d'une télévision portable, qu'est-ce que ça donne comme sens métaphysique à notre société par rapport à d'autres innovations possibles?
Daniel la Cohen, quête, vous voulez... Pardon.
Voilà, la quête de sens ne passe pas par l'économique.
Vous voulez répondre?
Oui, non, je vais continuer, je vais prolonger cette question, mais pour l'élargir et profiter qu'on est ici hébergé par l'Académie des sciences, pour poser cette question, en effet, que vous posiez au début sur le lien, je crois tout à fait évident, entre la recherche fondamentale, la science tout simplement, qui définit en amont le périmètre de nos connaissances et l'usage qu'on en fait ensuite. Il y a, j'ai envie de dire philosophiquement, en tout cas pour un économiste, deux manières de voir les choses. Une manière, c'est de dire... Et on me le répète d'ailleurs souvent quand je parle du numérique comme ça, sans guillemets, en généralité, il y a une manière de dire que un progrès technique obéit toujours à une finalité. C'est pas par hasard qu'on a fait ceci et cela parce que ça correspond à un besoin social. Mais il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire la science progresse en fonction des questions qu'elle se pose, souvent très en amont, voire totalement déconnecté des questions sociales. On peut dire que Newton avait un projet social particulier, il prolonge l'œuvre de Galilée, etc. Donc il y a une démarche propre à la science qui produit des résultats qui ensuite viennent nous tomber dessus et nous obligent à reconfigurer notre espace social à proportion de ce que la science et les techniques nous ont permis de penser. Et je crois qu'il faut pas opposer l'un à l'autre, il faut comprendre qu'il y a un peu tout. C'est-à-dire que la science permet des connaissances, on parlait de la santé, je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais on ne peut pas dire que les découvertes qui seront en amont auront en tête ce qu'on en fera ensuite. Donc il y a une démarche aléatoire du point de vue de la société qui est produite par la science, et puis il y a des usages sociaux, hein, ceux dont on parlait avec Frédéric, qui eux sont ancrés dans les besoins de la société. Et il faut accepter qu'il y a un jeu, qu'il y a un delta, donc c'est vraiment le sens de la question que vous disiez, et donc refuser tout déterminisme, c'est nouveau, donc c'est bien supposer que, voilà, on puisse démontrer que ça correspond à des connaissances nouvelles. Et il faut accepter avec modestie que le monde scientifique et technique nous lance à nous, société humaine, des défis que parfois on peut relever et que parfois on ne sait pas relever. Alors, illustration à propos de ce que vous disiez très justement du fait qu'on vit dans un monde de vitesse supérieure. On peut décider avec son smartphone de localiser une usine ou des capitaux à tel endroit ou tel autre. Ça, c'est un exemple typique de ce que les économistes appellent une complémentarité entre un certain type de tâches et les technologies. Mais il y a des cas où la technologie n'est pas complémentaire du travail humain, elle est substitut du travail humain. Et toute la question est évidemment de savoir où il y a complémentarité, c'est-à-dire ça va aider le travail humain à être plus efficace, et où il y a substituabilité, c'est-à-dire là où ça va détruire du travail humain. Alors avec le recul de ces 30 dernières années, on y voit plus clair. En effet, au début, c'était pas tout à fait évident. On a d'abord penser dans les années 80-90 que la relation entre technologie et travail humain était d'autant plus complémentaire que le travail humain était qualifié, éduqué. Et donc, en effet, la leçon politique simple, c'est un peu Chevènement qui, en 1900, dans les années 80, veut amener tout le monde au bac, 80% des Français au bac. Bah, la leçon simple, c'est qu'il faut translater tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui étaient à bac moins 2 vont passer à bac, ceux qui étaient à bac vont passer à bac plus 2, etc. Et la société française sera en situation d'utiliser les nouvelles technologies parce qu'elle se sera déplacée vers plus d'éducation. On comprend, et vous parliez donc de polarisation, je crois que c'est vraiment le terme qui est retenu aujourd'hui, que ça ne marche pas comme ça. C'est que le progrès technique, il est très utile tout en haut de l'échelle sociale, ceux qui doivent prendre la décision de délocaliser ou de déplacer leurs usines de tel endroit ou à tel autre, mais qu'il est destructeur au milieu de la société. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que toutes les tâches intermédiaires, celles qui ont constitué l'essentiel de la classe moyenne tout au long du XXe siècle, sont les premières victimes du progrès technique. Le rôle de ceux qui étaient tout simplement de faire le lien entre le haut et le bas de la société tend à être numérisé dans les banques, les assurances, beaucoup des exemples que Frédéric donnait, et qui ont fait le gras de la classe moyenne tout au long du XXe siècle. C'est le défi social. Je n'y vois pas de logique nécessaire. J'y vois l'effet des technologies, l'effet imprévu, les conséquences néfastes d'un monde qui va nous donner du progrès évidemment dans beaucoup de directions, mais qu'il faudra apprendre à gérer aussi. Et pour terminer sur cet exemple, mon ami, grand économiste s'appelle Joseph Stiglitz, disait très tôt au moment du courrier électronique, il disait le courrier électronique c'est génial pour celui qui envoie des messages, parce qu'on peut envoyer un message à 150 000 personnes avec exactement le même effort que si on en envoyait à une seule personne. Le drame c'est pour ceux qui doivent lire les messages, parce qu'il y en a qui vont recevoir 100 000 messages, et cela comme la technologie pour lire les messages peut-être en train de s'améliorer d'ailleurs, mais n'a pas changé, en tout cas au moment où il faisait cet exemple. On voit bien que pour celui qui donne des ordres, c'est un levier d'efficacité extraordinaire. Pour celui qui les reçoit, c'est un changement de ses conditions d'exercice, puisqu'au lieu d'avoir quelqu'un qui vient dans son bureau pour lui dire « tu vas faire ça », il reçoit un message qu'il doit retranscrire dans sa vie, et là, c'est un dérèglement. Donc oui, je crois qu'il faut accepter, on est hébergé par l'Académie des sciences et on est tous habités par l'idéal du progrès de la science, mais il faut accepter qu'il y ait un jeu, une hésitation, une incertitude sur la manière dont ce progrès crée son empreinte dans nos sociétés.
On a tous vécu le « vous avez 1533 nouveaux messages quand on vient de vacances hein, », c'est ça. Madame, vous voulez poser une question ? Après, je vous donnerai la parole. Allez-y.
Oui, bonjour, je suis Shirley Tiffen, je suis directeur de la rédaction de la revue Agro-Première, Flaveur du Monde, Hobby International. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec M. Cohen, parce qu'il évoque des choses importantes. C'est vrai que le progrès, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Faire partir un email au Japon, en Chine, vous savez, pour moi, c'est important. Je ne peux pas me déplacer en Chine, pas me déplacer au Japon, au Canada, aux États-Unis. Et avec un mail, en 3 minutes, je fais ça et j'ai la réponse. Alors, bravo, M. Cohen. Et je voulais dire aussi que les entreprises ont du mal à trouver des employés, à trouver des bons employés. Des employés, il y en a plein le chômage. Mais il faut les former, ces gens-là. Avant, on payait les entreprises pour former les gens. Pourquoi on ne le fait pas maintenant, aujourd'hui ? Il faut payer les gens pour apprendre. Je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je sais qu'avant, on payait, donc on les apprenait, mais ils cassent du matériel, ils font perdre du temps, et plein de choses comme ça. Apprendre aux gens, c'est un énorme travail. Je ne peux pas me permettre de passer des journées entières à perdre mon temps. Moi, j'ai des revues internationales qui doivent sortir tous les mois. Et alors, pourquoi on ne fait pas comme avant ? Payer les industriels, payer n'importe quelle entreprise, que ce soit dans la santé. La santé, c'est important. On ne peut pas remplacer une infirmière qui a des mains merveilleuses et c'est le plus beau métier du monde. On ne peut pas remplacer une infirmière avec un appareil. C'est impossible.
Alors justement, pardon, vous avez le patron d'une grande entreprise d'informatique, donc peut-être pouvez-vous répondre.
Alors, une réponse, je pense que on est, quand on regarde le problème de l'emploi lié à l'évolution du progrès, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois dans ce débat, il y a un déplacement Il n'y a pas de destruction massive, il y a un déplacement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des couches qui malheureusement subissent le progrès, mais avec le temps, eh bien, on voit qu'on va vers plus de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans le temps, des personnes qui faisaient des tâches répétitives, pas très intéressantes, avec une faible valeur ajoutée, grâce à la technologie, vont demain se transporter sur des métiers beaucoup plus intéressants. Quand on regarde ce qui se passe dans la société actuelle, c'est assez intéressant quand même, hein. Vous voyez que parce que nous ne réformons pas l'école et l'université et finalement l'enseignement, eh bien, il y a un espace qui est en train de se libérer et qui est pris par des entrepreneurs. Xavier Niel, avec l'école 42, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les entreprises, en particulier, moi je suis moi-même membre de conseil d'administration de start-up, ils cherchent des développeurs, l'État ne fournit pas ces développeurs, c'est l'Epitech, c'est l'école 42. Donc la question c'est, il faut absolument qu'on arrive à avoir un lien entre où va le monde, où va cette nouvelle économie, et comment adapter l'école à ces nouveaux challenges. Si on ne le fait pas, on va avoir pendant quelques décennies des personnes qui vont être laissées pour compte sur le bas-côté de la route. Monsieur disait tout à l'heure dans sa question, il disait ce que je disais d'ailleurs, il faut donner du sens. Je pense qu'il faut un sens parce que ça, c'est la trajectoire. Ça, c'est super important. Et puis après, il faut à nouveau, vous le disiez, il faut segmenter les innovations. Il y a les innovations qui sont fondamentales, les innovations d'usage qui sont très importantes parce qu'elles créent des ruptures, elles créent de nouveaux besoins. Moi-même, je vais vous citer un exemple sur les besoins. Quand Apple a lancé la tablette, quand j'ai vu cette innovation, j'étais à Londres, je regardais la campagne publicitaire et je me suis dit la tablette ne va pas trouver sa place. Parce que on avait les débuts de smartphones évolués, puis les ordinateurs portables, je me disais, je vois pas très bien comment ce produit va fonctionner. La preuve est que le produit a marché. Donc l'innovation, en fait, c'est d'abord le consommateur qui décide si une innovation doit perdurer ou pas. Rien d'autre. Une innovation qui n'a pas de marché, elle disparaît instantanément. Une innovation qui marche, c'est une innovation qui apporte quelque chose, un bien-être. Donc moi, mon point de vue, c'est que quand vous dites « je n'ai pas le temps, madame, de me former parce qu'il faut que je fasse tourner mon entreprise, etc. » Mais la réalité, c'est que se former et former ses collaborateurs, je vais prendre l'exemple de Hewlett-Packard Enterprise, on passe énormément de temps à former nos collaborateurs. J'ai même créé une université à l'intérieur de l'entreprise parce que ça se déplace tellement vite, ça va tellement vite que vous pouvez avoir des générations entières qui sont juste à côté de la plaque et qui ne peuvent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à prendre des métiers qui disparaissent, à former les personnes sur des nouvelles technologies pour les redéplacer sur des segments qui sont à forte croissance. Aujourd'hui, par exemple, on parle des objets connectés, mais il y a très peu de personnes qui connaissent aujourd'hui, qui savent ce que sont vraiment les objets connectés, même à l'intérieur de nos entreprises. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des personnes qui sont sur des projets qui n'ont plus d'avenir, et plutôt que de faire des plans sociaux, qui coûte très cher aux entreprises. Moi, je suis totalement opposé aux plans sociaux. Quand j'ai pris la direction de mon entreprise, j'ai dit, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait plus de plan social dans mon entreprise, ce que j'ai, pour le moment en tout cas, réussi à faire. Et j'ai dit, au contraire, il faut plutôt essayer de former et d'adapter nos collaborateurs. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Et les personnes, on a peur du changement. Ça, c'est un point important. On est l'homme par nature est réfractaire au changement. Donc, Alain le disait, je pense qu'il faut que l'État joue son rôle, certes, mais il faut aussi accompagner le changement. Parce que dès qu'on l'accompagne, les personnes se laissent aller, elles se laissent faire, parce qu'elles ont envie de comprendre. Tout le monde a envie de comprendre le numérique et comment ça, on peut s'y adapter. C'est pas juste le produit des générations Y ou Z de demain, celles qui vont arriver sur le marché du travail. Tout le monde a sa place dans ce monde de demain, à condition qu'on se donne les moyens de le faire.
Merci. Et donc, vous avez une question, peut-être génération Y ou Z?
Y, pas Z encore. Alors, je m'appelle Louis Poinsignan, je suis étudiant en économie à la Bocconi à Milan. Donc, vous avez beaucoup parlé des thématiques de l'éducation et de la formation des jeunes qui n'est pas effectuée dans les domaines du numérique. Mais alors, vous parliez du chauffeur Uber qui... vous êtes adepte de la doctrine du « il vaut mieux être chauffeur Uber que tenir les murs du RSA », pour reprendre les mots d'un ancien ministre maintenant. Mais cette précarisation du salariat touche autant le chauffeur Uber que l'étudiant de l'X ou de Centrale qui, en parallèle de ses cours, fait des missions de freelance sur des sites en ligne pour payer ses études, c'est-à-dire qu'il fait des contrats à brève durée pour remplir des tableaux Excel. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes de notre génération perçoivent cela comme un progrès et non pas comme une adaptation nécessaire et obligatoire au monde du travail?
Je laisse la parole aux autres, mais je réponds rapidement. Vous avez raison, mais je pense que ça n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. C'est-à-dire que dans ma génération, quand on sortait de l'école, on faisait des stages pour se payer ce qu'on avait envie de se payer. Et la différence, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire chez nous. Je sais qu'Alain le fait chez Manpower aussi. C'est que j'ai compris très vite que la jeunesse qui arrive avec ce capital digital, ça c'est indéniable, ne sait pas non plus tout faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans l'entreprise, c'est pas, il y a des personnes qui disent ils vont tout bousculer, les anciens n'ont plus leur place, pas du tout. La réalité c'est que les jeunes, ils sont comme moi quand j'étais jeune et que je suis arrivé sur le monde du travail, je savais rien et j'ai tout appris des anciens et ça va continuer comme ça. La seule différence, c'est qu'avant la transmission se faisait des anciens aux plus jeunes. Maintenant la transmission est réciproque. C'est-à-dire que les anciens transmettent et les jeunes transmettent aux anciens cette compétence digitale. Nous, ce qu'on a fait, pour répondre à votre question très directement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé complètement notre politique de stage et d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a dit, finalement, les jeunes qui arrivent avec un tel savoir, on va leur donner de vraies responsabilités. Alors moi, je pestais parce qu'il y a 5 ans, j'étais la 54e entreprise en termes d'attractivité pour les jeunes employés. Quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, j'ai dit c'est impossible, nous sommes Hewlett Packard, c'est impossible. Et donc on a mis en place un plan, on a donné des responsabilités aux jeunes. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce sont les jeunes qui eux-mêmes font la propre publicité de l'entreprise, dans les réseaux sociaux en particulier. Et on a été classé numéro 4 au classement des Échos en juin dernier. Grâce à ça, alors c'est pas pour mettre en avant ce qu'on fait, il y a plein d'entreprises qui le font, Manpower le fait, il y a plein d'entreprises amies que je connais qui le font aussi, mais il faut donner aux jeunes des vrais jobs. Maintenant, on peut pas éviter que de temps en temps, un élève polytechnicien ou de Bocconi va aller faire un stage qui n'est pas très intéressant, mais juste pour gagner un peu d'argent, ça va toujours exister.
Alors ce sera peut-être le mot de la conclusion pour qui veut répondre à ce sujet-là.
Moi je veux bien revenir sur l'aspect formation et le rôle des entreprises. Les entreprises vont devoir dépenser de plus en plus d'argent en formation. Elles sont déjà en train de le faire. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Enfin, on a eu la chance avec Gérald de rentrer dans une entreprise. Je sortais d'école d'ingénieur, je suis reparti 15 mois en formation. Payé par l'entreprise. Mon salaire, l'ensemble de la formation, l'entreprise s'appelait IBM à l'époque, pas suffisamment de compétences, pas de choix. Et donc, moi je vois aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, une fois passé le fait de dire... Vu ce que je paye comme impôt, je pourrais quand même avoir les jeunes qui correspondent à la formation que je recherche. Une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est tapé deux fois contre la tête contre le mur et que ça fait mal, on se dit de toute façon il faut que je trouve la solution. Donc c'est les initiatives, Xavier Niel. Alors ça peut être soit les entreprises elles-mêmes qui disent pour un simple besoin économique et qui de plus en plus d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, se traduit sous forme de retour sur investissement. C'est-à-dire que de toute façon, comme je trouve pas les compétences, je vais les former, ça va me coûter, mais de toute façon, ça va me rapporter plus que si je ne fais pas cet investissement et si je fais pas ce que j'ai à faire. Idem dans l'accompagnement tel que Gérald l'a cité, sur l'accompagnement de mes compétences, parce que ça devient un critère extrêmement important. Donc voilà, donc je crois, et moi je le vois dans tout ce que l'on fait avec les entreprises, aujourd'hui, la formation, et qui était hier vue un peu comme étant un mal nécessaire, aujourd'hui c'est véritablement de plus en plus vu comme un investissement. Je pense qu'il y a énormément de dirigeants d'entreprise qui ont bien compris que demain, il allait falloir qu'ils dépensent encore plus qu'aujourd'hui en termes de formation pour avoir les compétences dont ils ont besoin.
Daniel Cohen, formation, accompagnement, la place aux jeunes, c'est ça la condition pour que le progrès technologique s'accompagne du progrès social ?
Il faut évidemment être très attentif à ça, donner à chacun les moyens de retrouver sa place dans la société. Et oui, ça passe par la formation. Alors pour terminer sur une note, puisque le temps me tourne, une note d'espoir, j'en parlais à Frédéric là quand on rentrait, sur cette question de cette classe moyenne qui tente à devenir superfétatoire à l'heure du numérique. On n'a plus besoin de gens au milieu pour faire passer des instructions, donc ça se polarise. Soit on est tout en bas et on porte des bagages, soit on est tout en haut dans son taxi et on donne des ordres aux quatre coins de la planète. Les gens au milieu, on voit leur utilité diminuer. Je crois que c'est le grand défi de la prochaine génération. avec les compétences variées qu'on pourra leur donner à l'université et après, de produire une nouvelle classe moyenne. Je crois profondément que l'offre crée sa propre demande, même s'il faut du temps. Donc ces jeunes gens formés vont réinventer des emplois, même si c'est difficile aujourd'hui d'en voir tous les contours. Donc deux exemples. Si vous allez dans une agence de voyage, il y a 20 ans, l'agence de voyage vous donnait essentiellement votre voucher pour l'hôtel que vous aviez réservé, votre billet d'avion. Bon, aujourd'hui, on n'a plus du tout besoin d'agence de voyage pour faire ça. On peut le faire soi-même en ligne et on l'a sur son smartphone. Donc c'est très pratique. L'agence de voyage doit se réinventer. Elle doit être créative. Elle doit vous faire rêver à des voyages auxquels vous n'aviez pas pensé vous-même. Voilà un travail dans lequel les technologies et le travail humain deviennent complémentaires. La prime, et ça c'est dans le langage des économistes, elle va au travail non routinier. C'est-à-dire ce que le numérique détruit, c'est le travail routinier. Le mantra des informaticiens, en tout cas parmi mes élèves de l'école normale dont Frédéric faisait partie, c'est « si tu fais deux fois de suite le même job, pense au logiciel qu'il fera à ta place la troisième fois ». C'est ça le monde aujourd'hui, c'est l'anti-fordisme, l'anti-taylorisme, où au contraire, il fallait absolument répéter le même geste pour que la machine vous rende plus productif. Donc c'est un monde complètement différent, c'est une promesse, mais ça peut être une souffrance, parce que s'il faut être tout le temps créatif pour trouver sa place, il y a une souffrance psychique qui vient en vis-à-vis de ce qui était auparavant la souffrance physique. Un autre exemple qui est donné d'ailleurs souvent par les gens qui commandent ces technologies, c'est la fameuse partie de jeu d'échecs entre Kasparov et l'ordinateur de Big Blue, l'ordinateur d'IBM. Et le jour où Kasparov a perdu, on a compris qu'une page était en train de se tourner, elle s'est répétée avec le jeu de Go dont on pensait qu'il était inaccessible à un ordinateur et qui finalement a fini par gagner. Acte 1, la machine gagne. Mais acte 2, qui était repris, je crois, dans le livre Le deuxième âge de la machine de Boyanson et McAfee, je crois. Ils disent, oui, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est le jeu d'échecs freestyle, c'est-à-dire homme et ordinateur contre homme et ordinateur, qui par définition sera supérieur à l'un ou l'autre contre le deuxième. Et là, ce qu'ils disent, je n'en sais rien, mais je restitue cette histoire, c'est que la meilleure combinaison homme-machine, c'est pas Kasparov et Big Blue contre le reste du monde. C'est de très bons joueurs d'échecs qui sont aussi de bons informaticiens, mais à chaque fois pas les meilleurs. Et là, on voit que la complémentarité peut être beaucoup plus forte chez des gens qui ont l'intelligence, on va dire, de ces deux technologies. Voilà ce vers quoi on doit aller, une nouvelle complémentarité qui ne soit pas juste tout en haut et certainement pas seulement tout en bas, à tous les étages de la société. Voilà, c'est le grand défi par rapport auquel il faut évidemment encourager tout ce qui peut se manifester dans la société d'aujourd'hui.
Bernard Meunier, le temps nous est compté et vous revient la lourde tâche de clore ce débat.
Non, juste un petit commentaire parce que ça vient d'être évoqué. Dans la formation, on a beaucoup parlé d'école et de formation. On va vers deux systèmes qui peuvent être perçus comme étant à l'opposé et en fait qui sont reliés ensemble. Quand vous avez une relation, une transmission de savoir-faire de personne à personne, on se dit mais ça c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, et c'est vrai, et c'est comme ça que l'apprentissage, la formation de transmission de savoir-faire, quelque chose qu'on a gommé, l'école aimait bien dire que la transmission de savoir-faire devait uniquement passer par l'école. La façon dont l'école et le système éducatif résistent à l'apprentissage, c'est assez intéressant. Et d'un autre côté, au point de vue formation universitaire ou scolaire ou autre, face à l'évolution actuelle, le meilleur professeur d'une spécialité ne va pas être probablement dans l'université qui est à 30 km de chez vous. Mais avec les MOOC, on va avoir une compétition formidable entre professeurs d'université ou ailleurs. Et ça va être intéressant. Je pense que c'est une période tout à fait intéressante à vivre. Moi, je crois que le progrès, la maîtrise du progrès par rapport aux innovations, par rapport à l'enjeu dont vient, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure par Daniel Cohen. C'est qu'effectivement, il y a toute une classe intermédiaire qui est totalement déstabilisée parce que tous les emplois qu'on a perdus dans l'industrie, qu'on a perdus dans l'agriculture, n'ont pas été remplacés. On a parlé d'économie de service. Mais l'économie de service, jusqu'à présent, c'est transformer les anciens ouvriers de la sidérurgie en livreurs de pizza. Et ça passe pas très bien du point de vue social. Il y a un déclassement qui est net. Donc je crois qu'il y a réinventé les sociétés, en particulier en Europe et aux États-Unis. Parce que moi qui suis prof en Chine, je peux vous assurer que les Chinois ont vu très bien l'arrivée de l'industrialisation.
l'arrivée des TGV, l'arrivée des constructions d'aéroports. L'endroit où on construit le plus d'aéroports au monde, c'est la Chine. 1 km de TGV, 150 000 km d'autoroute en l'espace d'une dizaine d'années. Et les Chinois ne se plaignent pas. Ils sont parfaitement heureux. L'ascenseur social fonctionne. Ils sont 400 millions à accéder au tourisme, tout ça. Il y a encore 800 millions de Chinois qui regardent des 400 millions. Ils se disent que tout va bien, on va pouvoir accéder. Et simplement, nous, on regarde cette évolution, c'est ça. Il y a des transferts de technologies qui sont faits. On est face à ça. Et d'un point de vue organisation de la société, il est évident que la rapidité avec laquelle se font les choses va obliger tous les décideurs, quels qu'ils soient, politique, syndicale, différents échanges de la société, de réfléchir. Voilà.
Merci beaucoup, Bernard Meunier. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'avoir été si attentifs. Merci.